Bonsoir Adicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission et si demain une émission que vous retrouvez en direct tous les mardis entre 17h et 18h sur www.espritoccitanie.fr avec à la réalisation Jean-Louis Zacfresse et je le remercie parce que sans réalisation pas d'émission. Au micro Christian Moreto, mais pas que, je salue au passage notre ami Landy Sella qui ne peut pas être là ce soir. Nous allons avoir dans quelques instants au téléphone Céline Astier, metteuse en scène, et en studio nous avons Xavier Delagne, réalisateur de Notre-Dame de la ZAD. L'émission, eh ben on va dire qu'elle est soutenue par nos amis de l'American Cosmographe Ex-Utopia Toulouse, de TV Sol Actualité sur Internet, mais aussi du Théâtre du Pavé. Je salue au passage les fidèles de l'émission, Véronique Labre, Patrick Boyer, Marianne Dupont, Daniel Lafont, Anna Carbonel... Et aussi Fanny et Grégoire Dozoville, Catherine Rapp, Serena Bardos. Et je remercie également Caroline Mercier et Jean-Loup Arzac pour tout le travail qu'ils font sur notre site. C'est essentiel, c'est important. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Je salue au passage aussi Céline Boussier qui a accepté de marrainer ou parrainer cette émission, comme également l'émission Traversée et comme l'émission Cap et Cap. Et donc, nous allons retrouver de suite au téléphone, si tout fonctionne, et ça va fonctionner, Céline Astrier. Bonsoir. Oui, a priori... Oui,
c'est bon, vous m'entendez ?
Oui, nous vous entendons. C'est merveilleux, la technique, quand ça fonctionne. Et elle fonctionne grâce à Jean-Loup ce soir. Alors, Céline Astrier, vous êtes metteuse ou metteur en scène ? Moi, je dirais metteuse, parce qu'après tout, vous êtes une femme, sauf erreur de ma part.
Oui, ben, je suis autrice et metteuse en scène, oui, de
voilà.
Théâtre.
D'accord. Et c'est la compagnie Nanaki. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie qui, a priori, vit du côté, en tous les cas, est basée à Toulouse ?
Ben, la compagnie Nanaki, elle est née il y a assez longtemps à l'université qui s'appelait encore l'université Toulouse-Le Mirail. C'était en 99, un groupe d'étudiants. Et le nom Nanaki, c'est le petit nom d'Antonin Artaud. C'est le nom que lui donnait sa grand-mère. Voilà, pour résumer un petit peu. Donc la compagnie a pas mal d'activités, et notamment des activités de création théâtrale, comme toute compagnie théâtre, mais aussi on organise des conférences indisciplinées, dont une qui aura lieu la semaine prochaine, le 4 avril, au Théâtre Jules Julien, à partir de 19h, et une autre au Quai des Savoirs, le jeudi 12 avril, à 20h.
D'accord. Alors, qu'est-ce que sont ces représentations indisciplinées ? Ça ne va pas plaire à ceux qui sont pour l'ordre.
Alors, c'est quand même assez ordonné et basique. Indiscipliné, c'est parce que ça mélange, en fait, pas forcément les arts, mais des pratiques de discours différents. Le discours artistique et le discours beaucoup plus justement discursif, scientifique. Donc l'idée que nous on a eue, c'est que les théâtres sont aujourd'hui plus des lieux de contemplation et de consommation esthétique plus que des lieux de débat. Et avec la compagnie, on avait envie de réintroduire cette question du débat autour de quelque chose qu'on partage tous, qui est le langage. Donc, on a organisé des conférences à partir de la saison 2014-2015 autour de mots comme démocratie, politique, enfin des, entre guillemets, gros mots. Et ce cycle de conférences, il s'appelle « Les maîtres ignorants » en référence au livre de Jacques Rancière sur l'émancipation intellectuelle par le savoir. Donc en fait, ces soirées autour d'un mot, ben, on demande à un artiste ou un couple d'artistes d'interpréter à sa manière ou comme il le veut, de retraverser le sens de ce mot-là. Et à la suite, il y a une intervention d'un spécialiste et pour finir, un débat avec le public. Donc ces soirées, elles ont eu lieu dans pas mal de lieux à Toulouse. L'année dernière, on était notamment associés au Théâtre Sorano, il y a eu 5 soirées. Et là, cette année, on fait ça dans différents lieux toulousains, on en a fait 3. Il y en a une au SIAM et les prochaines, c'est au Théâtre Jules Julien et au Quai des Savoirs.
D'accord, donc Théâtre Jules Julien, c'est le mercredi 4 avril à partir de 19h pour le spectacle et suivi donc de la conférence à 21h donc au Théâtre Jules Julien.
Et ensuite... Et c'est sur le mot genre. Et donc c'est Barbara Mété-Chastanier qui est autrice avec la compagnie Théâtre Variable 2 qui présente une pièce de théâtre là. Donc là c'est une un partenariat entre cette compagnie, le Théâtre Jules Julien avec Pascal Papini et notre compagnie, la compagnie Nanaki autour de cette soirée. Et c'est autour du mot genre puisque le spectacle s'appelle La femme n'existe pas. Et qu'à la suite, nous, on a invité Elsa Dorlin, qui est une philosophe féministe assez reconnue, qui a énormément travaillé sur les questions du genre, et notamment à travers le prisme des rapports de pouvoir et de la nation. Voilà. Et le 12 avril, c'est notre compagnie, Compagnie Nanaki. On va travailler dans le cadre de la... à 20h de l'exposition L'humain de demain. On va lire le très beau livre de Jean-Luc Nancy qui s'appelle L'intrus, dans lequel Jean-Luc Nancy raconte sa grève du cœur qu'il a eue il y a 26 ans. Et ce sera suivi d'une intervention d'une psychanalyste, Christina Lindenmeyer. Voilà. Et l'entrée est gratuite.
D'accord. Donc de belles choses au niveau de la programmation. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir dans ces aventures ?
Comme je l'ai expliqué, nous on était dans une histoire un peu déceptive aussi avec le théâtre, parce qu'il faut savoir qu'une compagnie, c'est avant tout... c'est une petite entreprise en fait, et on est obligé de vendre nos produits que sont les spectacles. Et donc du coup, on perd aussi ce rapport politique que le théâtre a d'une certaine manière ou pas. Et on avait plutôt envie de réinterroger le théâtre à cet endroit-là comme un lieu de débat, un espace public de confrontation. Voilà, c'est ça l'idée de base.
D'accord. Dans le studio, nous avons Xavier Delagne aussi qui est réalisateur. Je ne sais pas, Xavier, si tu veux réagir par rapport à ce que vient de nous dire notre interlocutrice. Non, pas encore. Donc, Céline Astrier. Et donc, je suppose que vous avez peut-être, et tant mieux, si c'est le cas, le statut d'intermittente du spectacle.
Alors là, je ne vous ai pas du tout bien entendu.
Ah, alors, je me répète. Non, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous avez, vous personnellement, et puis peut-être toute l'équipe, la troupe du théâtre, le fameux statut d'intermittente ou d'intermittent du spectacle ?
Est-ce que moi, je suis intermittente, c'est
oui,
ça ?
Oui.
Oui, oui, moi, je suis intermittente.
Voilà. Sachant que c'est un statut, que ce n'est pas une profession, bien sûr, hein, mais ça permet de protéger...
Statut de chômeur, quoi. Enfin, c'est pas un statut social. C'est-à-dire que quand vous êtes intermittent, vous n'avez pas droit à l'ancienneté, vous êtes extrêmement précaire, vous pouvez être contrôlé. Moi, je l'ai déjà été. C'est pas une situation facile, surtout quand on est mère de famille. Et sachant aussi qu'il n'y a que 24%, je pense, des intermittents qui sont des femmes. Donc là aussi, c'est quand même un statut assez difficile à avoir. Et même quand on l'a... c'est pas facile non plus. Voilà.
D'accord. Je salue au passage, tiens, une amie qui a aussi perdu, d'ailleurs, je crois, son statut d'intermittente du spectacle, qui est Audrey Saint-Cast, que nous connaissons bien, puisque j'ai une autre émission qui s'appelle Traversée, qu'elle est co-animatrice de cette émission. Et pour cause de maternité, je crois qu'elle a perdu, effectivement, son statut.
Oui, voilà.
Et donc, vous défendez, à juste titre, hein, moi, j'assume tout à fait mon côté féminin, mais vous défendez, vous, justement, tout ce fait qu'il n'y a pas d'égalité vraiment, d'égalité au niveau des femmes et des hommes aujourd'hui dans nos sociétés.
Ben, c'est pas que je le défends, c'est que c'est constaté. Nous, on a participé, enfin, il y a un collectif que vous devez connaître qui s'appelle HF, qui est pour l'égalité dans le spectacle vivant entre hommes et femmes. Et on a participé à toute une étude qui a été menée par la DRAC où les chiffres sont absolument catastrophiques. Donc, c'est pas une fiction, si vous voulez. Par exemple, une philosophe comme Elsa Dorlin, elle retrace que tout ça, ça a une histoire. C'est l'histoire d'une domination et d'une société qui est basée sur le patriarcat, surtout. Voilà. Donc nous, on en récolte juste le fruit.
Oui, et c'est une société, du coup, qui est peut-être plus violente. Enfin, j'ose espérer, sauf peut-être comme le chantait Renaud, Madame Thatcher. Mais sinon, un peu...
Alors là, je n'ai pas du tout entendu.
Oui, je disais, nous pouvons supposer, ouais, sauf...
Je ne vous entends plus du tout.
Ah, vous ne nous entendez plus. Donc là...
Oui.
Vous nous entendez là ou toujours pas? Non, visiblement, nous l'avons...
Ça y est, oui. Je vous entends.
D'accord. Merci, Jean-Loup. Quelquefois, la technique nous joue des tours. Je disais que, mis à part peut-être Madame Thatcher, comme le chantait Renaud, nous pouvons supposer que s'il y avait une société où le féminin s'exprimait davantage, nous aurions peut-être moins de guerres. Peut-être qu'aux États-Unis, quoique, a priori, c'est une femme qui a une main de fer aux États-Unis et qui fait qu'elle défend aussi toute cette mafia autour de l'armement. Mais nous pourrions penser que s'il y avait plus de féminin dans nos sociétés, dans le bon côté du féminin, il y aurait peut-être moins de conflits, moins de guerres et plus de création. Je crois qu'on vous a perdu. Oui, je crois que nous l'avons perdu. Vous êtes là ou... Non. Bon, alors nous allons revenir dans le studio, en attendant, avec Xavier Delagne. Donc merci d'être là. Xavier, donc tu viens de terminer, mais maintenant c'est le côté montage, tu viens de terminer une fiction qui s'appelle Notre-Dame de... Lazad, est-ce que tu peux nous en dire plus, Xavier Delagne ?
Eh bien oui, merci de me recevoir. C'est une comédie que nous avons tournée dans la région Occitanie, donc dans le Lot, en novembre dernier, qui s'appelle Notre-Dame de Lazad, et qui aborde sous l'angle de l'humour un petit peu les problématiques liées au militantisme et au militantisme d'occupation, comme les ZAD à Notre-Dame-des-Landes, ou à Sivens, ou à Bure, ou à Agen, pardon, comme il y a eu récemment. Et l'idée, c'était d'aborder ça sous le volet de l'humour, c'est-à-dire j'ai l'impression que l'humour permet, par une certaine distance, d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et mais en même temps, avec une distance qui peut être parfois ironique, mais aussi parfois sympathique, de mieux comprendre un petit peu comment se jouent les choses. Et donc l'idée du film, un petit peu, c'était de confronter deux choses qui, a priori, n'ont rien à voir, mais pourtant le nom Notre-Dame-des-Landes peut le suggérer. C'est la confrontation entre la religion catholique et le militantisme zadiste. Et donc, le sujet du film, enfin le synopsis, c'est des zadistes un peu à bout de course qui défendent, qui sont contre le projet d'implantation d'une autoroute dans un milieu protégé, vont voir un curé pour lui dire que la Vierge Marie est apparue sur le lieu de la ZAD afin que la ZAD soit protégée. Voilà. Et en fait, le film va mettre à l'épreuve un petit peu ce prêtre, qui est plutôt un jeune prêtre, face à ses convictions, mais aussi face au zadisme, qui finalement, les convictions religieuses et les convictions zadistes peuvent peut-être se retrouver.
D'accord. Ce qui est essentiel aussi, peut-être, de se retrouver. Mais donc... C'est un moyen métrage, donc ça veut dire que c'est au-delà du court métrage. C'est un film qui pourrait très bien passer en télévision.
Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas eu de préachat de télévision pour l'instant, mais si une télé est intéressée, effectivement, il pourra passer. Généralement, c'est plutôt France 2 ou Arte qui achète ce genre de film.
Alors, tu as donc eu le soutien de la région Occitanie, qui est important, et du CNC aussi, donc ce qui permet au moins une partie de financement, puisque donc, s'il y a 45-46 minutes de film, ça veut dire plusieurs jours, voire plusieurs semaines de tournage.
Voilà, on a tourné 15 jours à peu près, 13 jours exactement, sur plusieurs décors. Le décor de la ZAD était entièrement construit pour le film, donc c'est vrai que c'était assez, un travail assez important. Et il y avait quand même une vingtaine de techniciens et une dizaine de comédiens à peu près dans le film. C'est un film avec beaucoup de personnages, pas mal de ramifications autour des deux personnages principaux qui sont le prêtre d'un côté et une zadiste un peu chevronnée de l'autre. Et voilà.
Et donc, parmi les comédiennes et comédiens, je salue au passage Émilie Perrin, la Reine des Aveugles, qui était donc, qui faisait partie du casting.
Tout à fait, tout à fait. Il y avait plusieurs acteurs toulousains. Il y avait Émilie Perrin, mais il y avait aussi Nicolas Gruber, qui est un jeune acteur toulousain. Il y avait aussi Jeannick Barrault et beaucoup de gens de la région qui sont venus, Robert Garouste aussi, qui sont venus apparaître dans le film.
Et donc, tu as tourné du côté de Gourdon, c'est ça ?
Oui, tout à fait, du côté de Gourdon, dans le Lot, où on a été assez incroyablement accueillis, à Gourdon exactement, et voilà, pendant une dizaine de jours.
Donc, accueil des Lotois, tu es toi-même d'origine lotoise, si mon petit doigt ne s'est pas trompé.
Oui, tout à fait, je suis né à Cahors et mes parents habitent non loin de Gourdon, donc j'étais en terrain connu.
D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais nous retracer un petit peu ton parcours ? Comment tu en es arrivé à tourner ce moyen métrage ? Auparavant, donc, tu as tourné des courts, sauf erreur de ma part.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, en fait, j'ai fait d'abord des études universitaires à Paris, après mon bac. Et ensuite, je suis revenu, j'ai passé le concours de l'ESSAV à Toulouse. Et j'ai fait la scolarité à l'ESSAV et à partir de là, j'ai commencé à faire des films à la sortie. Un premier film qui s'appelait Un avenir radieux avec le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques à Paris, qui est un organisme qui finance des premiers films. Et grâce à ce film, j'ai rencontré ma productrice avec qui j'ai fait un premier court-métrage qu'on avait tourné dans la région d'à côté, en Nouvelle-Aquitaine, enfin en Aquitaine à l'époque, et dans le Béarn. Et ensuite, on a commencé à écrire ce film ensemble et on l'a financé et on l'a tourné.
Et donc, si ce n'est pas indiscret, c'est un budget quand même un peu court, je suppose, pour faire tout ça, mais qui...
Oui, enfin, court qui a quand même permis de... C'est ouais. Jamais assez, hein. Mais on a quand même pu travailler plus ou moins confortablement, ce qui était quand même des conditions, même si elles étaient rudes, plus agréables que ce qu'on a l'habitude de connaître en court-métrage, enfin, ce que j'avais connu auparavant, en tout cas.
Et donc... Notre-Dame de la ZAD sera peut-être et sans doute présentée au Festival de Jindou, qui est une petite commune du Lot, mais très active au niveau cinématographique.
Oui, tout à fait, on espère. La décision leur appartient.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à te lancer comme ça dans l'aventure cinématographique et du côté réalisation ?
C'est une bonne question. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire du cinéma. Et au début, je ne savais pas trop dans quel métier exactement. Et c'est au fur et à mesure, notamment à l'ESSAV, où on peut quand même chercher sa voie aussi, expérimenter, ce qui est une école quand même qui offre beaucoup de liberté aux étudiants. Et c'est là que j'ai pu vraiment orienter un petit peu mes choix et voir déjà si je voulais faire de la mise en scène, et ensuite quel type de film j'allais faire, puisque à partir de là, j'ai commencé à faire des comédies, et puis de fil en aiguille, j'ai toujours développé des comédies avec une incursion dans le documentaire, mais assez ponctuelle finalement, et je suis très vite revenu à la comédie, et même dans le documentaire, qui était un film de commande, qui se passait à Garaison aussi, en région Occitanie, j'ai aussi mis de la comédie là-dedans, donc il y a toujours de la comédie quelque part.
Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, de réussir une comédie. C'est peut-être plus dur qu'un certain nombre d'autres films. Nous avons retrouvé aussi notre interlocutrice au téléphone, Céline Astrier. Vous êtes revenue ?
oui.
Voilà, vous êtes là.
Ça a coupé.
Oui, ben c'est des choses qui arrivent.
Donc, du coup, j'ai eu que la fin, en plus de l'interview, sur le film Agindou, voilà.
D'accord. Et donc, mais ça, c'est les aléas aussi du direct, puisque voilà. L'émission « Et si demain » sur Esprit Occitanie se déroule en direct le mardi entre 17h et 18h. Et donc, je disais que peut-être que s'il y avait plus de féminité dans nos sociétés, mis à part Madame Thatcher, comme le chantait Renaud, peut-être qu'il y aurait moins de conflits, moins de guerres, que sais-je, si le bon côté féminin s'exprimait dans nos sociétés, peut-être que ça irait mieux et que le budget de la culture et celui de l'écologie, par exemple, serait plus important que celui de l'armée chez nous.
En fait, je pense que c'est toutes les questions du genre. Les valeurs que l'on donne aux femmes, elles sont construites socialement. Donc la douceur, la vulnérabilité, le fait qu'on soit aussi sans défense, ça, ce sont des constructions d'une domination. En fait, le problème dans tout ça, c'est pas tant d'introduire, je pense, un aspect féminin ou des attributs féminins, à part si ce sont des attributs, plutôt humains. À l'ensemble de la société, je pense que c'est des dynamiques de pouvoir qui posent problème à cet endroit-là. C'est parce que justement il y a domination et pouvoir qu'il y a violence, tout simplement. C'est pas tant parce que il faudrait reféminiser la société. Mais je crois que le féminisme met surtout l'accent là-dessus, sur ces inégalités-là, et justement sur, comme vous le disiez, très justement, acter un changement de société, mais qui ne va pas se faire demain, quoi. Voilà.
Effectivement, ça ne va pas se faire demain, malheureusement. Et pourtant, il y a des choses urgentes, y compris au niveau de l'écologie, bien sûr, et de l'écologie humaine.
Et il y a l'écoféminisme, c'est ça dont vous vouliez parler.
Oui,
aussi.
Oui, tout à fait.
Il s'appelle comme ça, oui.
Donc c'est comme je vous le disais, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi j'assume totalement mon côté féminin et nous avons chacune et chacun un côté féminin, un côté masculin normalement. Alors il y a peut-être les militaires purs et durs qui refusent leur côté féminin, d'où les catastrophes qui arrivent après derrière. Enfin en tous les cas, c'est une question que je pose, je n'ai pas forcément la réponse, puisque je ne l'ai pas posée en tous les cas à certains officiers qui sont en activité. Mais ceci étant, est-ce que vous pourriez nous rappeler, donc, compagnie Nanaki, ce que vous allez faire le 4 avril et le 12 avril prochain ?
Donc, le 4 avril, ce sera à partir de 19h à Jules Julien. Mmh. Il y a un spectacle qui s'appelle « La femme n'existe pas ». C'est dans le cadre d'une soirée sous l'égide d'une conférence indisciplinée instaurée par la compagnie c'est la quatrième saison. Et là, le mot en fait qu'on va questionner, c'est le mot genre. Donc, en première partie de soirée à 19h, il y a ce spectacle « La femme n'existe pas » qui est une réécriture de la colonie de Marivaux par Barbara Mété-Chastanier et la compagnie Théâtre Variable 2. Et ensuite, à 21h, puisque la pièce est à environ 1h40, il y a une intervention d'Elsa Dorlin, qui est une philosophe féministe qui enseigne à Paris 8, la philosophie, et aussi avec une part quand même de sociologie, je pense, dedans. Et après, le 12 avril, il y a une autre conférence indisciplinée intitulée « L'intrus » qui aura lieu au Quai des Savoirs. À 20h. L'entrée, par contre, là, est libre. Il y a une tarification, par contre, au Théâtre Jules Julien. Il faut se référer au site du Théâtre Jules Julien pour avoir les tarifs exacts. Et c'est une lecture de l'intrus de Jean-Luc Nancy par la compagnie Nanaki, avec suivi d'une intervention d'une psychanalyste sur, justement, la question du corps réparé et des possibilités de la médecine dans les pays dans lesquels nous vivons, nous, aujourd'hui, où encore on peut bénéficier d'un développement assez considérable des pratiques du soin. Donc voilà, jusqu'où ça nous mène, ces histoires de corps réparés, augmentés, puisque ça pose aussi la question du transhumanisme. Ce sera cette soirée se déploiera autour de ce thème-là, le 12 avril Ok, voilà.
D'accord, puisque comme l'a très bien dit ou écrit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il y a des limites peut-être et sans doute même à ne pas dépasser.
Oui, après voilà, c'est un grand débat éthique sur les transhumanistes et tous les implants qui commencent déjà à être actés au niveau du cerveau, où on implante de la mémoire, enfin plein de choses, où on dépasse les limites humaines de la mort, quoi.
Oui, alors c'est comme finalement, on rajoute des REM, pour parler au niveau technique, ou des RAM au cerveau des humains, comme on le fait au niveau des ordinateurs, ce qui devient inquiétant quelque part.
Oui, ben c'est comme dans le film Ghost in the Shell. Là, c'était un film d'anticipation, mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent très sérieusement et très concrètement à ça. Bien sûr, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, mais c'est pas du tout quelque chose de négligeable. Et il y a vraiment des gens qui se réunissent autour de ces idées-là, qui peuvent être quand même assez dangereuses à terme sur ce que signifie un humain amélioré, quand même. Voilà.
J'avais vu une très belle fiction avec Emma Watson qui s'appelle The Circle. Si c'est peut-être un film également à voir et qui pose un certain nombre de questions sur aussi la manipulation de certains humains sur d'autres humains et tout le pouvoir que ça peut engendrer effectivement aussi ces nouvelles technologies. Et il y aurait beaucoup, beaucoup à dire et sans doute une journée d'émission même à faire là-dessus. Si nous voulons retrouver toutes ces informations, enfin ce dont vous nous avez parlé, nous pouvons aller sur, je suppose, compagnie anaki.com, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui, sur la rubrique calendrier. Et puis après, vous retrouvez aussi toutes les infos sur le site du Théâtre Jules Julien. La soirée est annoncée. Dans la plaquette du Quai des Savoirs, puisqu'on fait partie de la programmation, et on est aussi sur leur site. Donc voilà, c'est référencé, il n'y a pas de souci pour le trouver sur le net.
D'accord, eh bien, merci Céline Astrier, donc metteuse en scène, d'avoir participé à cette émission. Et si demain ?
Ok, ben merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir. Et peut-être que, je te le dis un petit peu à l'avance, Jean-Loup, nous pourrions programmer par exemple une petite ou une grande chanson de la Reine des Aveugles pour dans quelques instants, puisqu'elle a participé, donc Émilie Perrin, au tournage de Notre-Dame de la ZAD. Et donc un film de Xavier Delagne. Donc tu avais quand même une équipe assez conséquente finalement pour ce film.
Oui, on avait une vingtaine de techniciens, je crois une dizaine de comédiens avec des rôles parlants et une partie des techniciens, bien sûr, qui étaient de la région Occitanie, qui étaient des copains aussi, puisque quand même je tourne souvent avec les mêmes personnes, souvent des acteurs aussi récurrents. Et du coup, c'était une ambiance assez agréable de convivialité et de partage.
Et comment était l'accueil justement des Lotoises et des Lotois par rapport à ce tournage ?
Très, très agréable. On a été merveilleusement accueillis. D'ailleurs, c'est la première fois moi, que je suis aussi bien accueilli pour un tournage. C'était un vrai plaisir. Les gens partageaient beaucoup les choses et nous donnaient plein de choses sans qu'on ait à demander grand-chose. Ça, c'était très, très agréable.
Ouais. Donc, une belle expérience.
Très belle expérience, un très bon accueil, malgré les conditions climatiques assez défavorables. Mais on s'en est sorti.
Oui, parce que le tournage s'est fait à quel...
Alors, c'était au début du mois de novembre et on a été vraiment sur la frontière de l'été et de l'hiver d'un coup. On est passé de 25 degrés à 3 degrés en quelques jours, donc c'était un contraste assez fort. Puis, il y avait beaucoup d'extérieur, comme ça se passe principalement dans une ZAD, donc dans la forêt, sur les routes, dans les prés. Et il y avait beaucoup de... Donc, on était rarement au chaud, et c'était le seul point noir du tournage, on va dire, le climat.
D'accord. Nous pouvons écouter peut-être la Reine des Aveugles.
Oui, les adolescents.
Ouais, par
voilà,
exemple.
Par exemple.
À tout de suite.
Les adolescents marchent lentement en bande, souvent sur les trottoirs de mon quartier. Toujours fatigués, sans jamais pressés d'aller au lycée, se font doubler par les mémés, les amis. dents avec du grillage de vin. Bouffe des beignets, censé affamer, censé affaler. On a envie de les gifler. Les adolescents, les cheveux devant, regardent les gens se faire chier comme leurs parents. Arrogant, j'avoue, des fois en moi je sens le désir pervers de beauté leur derrière. Trop souvent à l'air pour leur apprendre les manières. Les adolescents, le cul en levrette, putain d'âge bête, font du skate sous mes fenêtres. Et moi ça m'inquiète, je sais pas ce qui m'arrête. J'ai l'envie secrète de leur jeter des cacahuètes. Les adolescents, même pas sevrés, le sourire niais se bécote sous mes volets. Et c'est dégueulasse, moi devant ma glace. Dans mon temps qui passe, j'aimerais tant être à leur place.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission « Et si demain ?» sur Esprit Occitanie, ex-Occitanie première, donc en direct, avec en studio Xavier Delagne, donc réalisateur de Notre-Dame de la ZAD, et il y a parmi les comédiennes et comédiens, Émilie Perrin, la reine des aveugles, que vous venez d'entendre. Dans l'ensemble, ce tournage s'est donc très bien déroulé, même si les conditions climatiques, quelquefois, étaient un peu moins favorables.
Oui, très très bien. Ben, c'est toujours quelque chose d'un peu incroyable, ce qui fait un peu la richesse aussi de enfin, moi, ce qui me touche dans ce métier, c'est qu'on passe d'un scénario qu'on écrit pendant des mois tout seul dans son coin avec juste un ou deux interlocuteurs. La productrice qui relit de temps en temps et qui fait des retours, et donc on avance tout seul dans le noir un petit peu, et d'un coup ça devient un projet qui s'ouvre collectif et que 20 personnes, 30 personnes avec les comédiens s'emparent, et ça devient un sport collectif, le cinéma, à ce moment-là. Et c'est ça qui est assez incroyable dans un tournage, c'est que tout le monde travaille un peu à égalité pour faire le film le mieux possible, et c'est ça qui est assez fascinant. Et en même temps, juste après, on retourne en montage et on retourne à deux ou trois personnages et on repasse dans quelque chose de très intime avant de retrouver un petit peu le public et le moment où le film se réouvre un petit peu. C'est ça, cette alternance, je trouve que c'est assez stimulant de travailler comme ça, par à coup.
Et donc, à quelle période après, à quel moment tu penses que le montage sera terminé? Est-ce qu'il y a une date butoir ou...
Non, on n'a pas de date butoir, mais après, on est toujours limité dans le temps. Bon, il faut savoir s'arrêter. Puis là, on a terminé le montage, ce qu'on appelle le montage image, c'est-à-dire l'agencement des plans, et on commence le montage, enfin on est en train de travailler sur le montage son en ce moment, donc c'est vraiment plus le montage dans la verticalité, on pourrait dire, si on considère le film dans une continuité linéaire, horizontale, c'est-à-dire qu'on va rajouter des sons, dans un premier temps le technicien nettoie les sons, pour sélectionner ce qu'il y a de meilleur, enlever les petits défauts techniques. Et puis après, on crée vraiment toute l'ambiance sonore, les ambiances extérieures, et notamment les bruitages qui participent énormément en comédie à créer quelque chose d'un peu rigolo. On s'amuse beaucoup à faire grincer tout ce qui peut grincer, dans les portières, les chaises, les lits, enfin tout. Et ce qui rapporte un petit peu de drôlerie aussi, et de rythme à l'image, le montage son, c'est vraiment un vecteur d'efficacité aussi, assez intéressant.
Alors pour 45-46 minutes de film, il y a eu combien de rush, combien d'heures de tournage
D'heures de tournage
ou de longueur de... Enfin, je ne sais pas si c'est en numérique.
Oui, on a tourné en numérique et il y avait à peu près 16 heures de rush. Donc ça fait quand même quasiment 16 fois trop. mais voilà, 16 heures de rush. Mais c'est toujours un peu comme ça parce qu'on cherche. Et même la première version du montage, faisait plus d'une heure. Et on réduit, parce que la comédie, c'est le rythme en priorité quasiment. Donc il faut que ça soit toujours, que ça swing un petit peu. Et du coup, on a coupé beaucoup de scènes aussi, qui étaient très bien, mais qui, parce que dans la globalité du film, le rythme fait qu'il faut, aller des fois à l'essentiel pour pas se perdre. Voilà.
Et là, est-ce qu'il y a déjà des touches entre guillemets pour des festivals, voire des projections en salle?
Non, pas encore.
La démarche viendra après quand.
Exactement. Oui. Là, pour l'instant, on est vraiment sur la finition du film.
Bon, je suppose qu'il y aura au moins des projections peut-être à la médiathèque et tout, parce que quand la région Occitanie participe, je crois que c'est...
Oui, je pense qu'on fera une projection à la Cinémathèque de Toulouse, peut-être à l'ESSAV aussi, enfin l'ANSAV maintenant. Je pense qu'il y aura aussi une projection à Gourdon pour les gens qui ont participé au tournage. Enfin, voilà. En région, il y en aura, c'est sûr.
Et donc après, ça va être tout l'aspect après avoir tourné, monté, sonorisé. Donc ça, après, c'est la diffusion, donc aussi une autre bataille à mener. Et quand c'est une petite équipe, puisque ça, y a pas les, enfin, c'est pas les grosses boîtes où tout est réparti. Là, il faut finalement être à la fois réalisateur, donc tu es aussi au montage, tu es aussi dans la partie son, et puis tu vas être dans la partie promo, diffusion et tout.
Et oui, le réalisateur, il suit vraiment le projet du début, de la première... De la première idée, on va dire, enfin, quand il est scénariste, comme c'est mon cas, de la première idée du scénario, donc c'était en décembre 2015, jusqu'aux dernières projections du film. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais sûrement dans quelques mois encore. Donc c'est vraiment un travail qui s'étale sur du très long terme.
Donc nous en reparlerons quand il sortira.
Voilà.
Au niveau de la diffusion, ce qui était forcément important, puisque si ça reste sur le côté, parce qu'il y a même des longs métrages qui à la limite n'arrivent pas à sortir même sur les écrans.
Oui, des fois ça prend plusieurs années pour qu'ils sortent. Donc quand on est à plusieurs mois, on est content.
Oui, c'est pas évident, mais il y a peut-être quelques cinémas comme l'American Cosmographe que j'ai cité, ou l'Utopia, ou même l'ABC, ou voir le Cratère aussi à Toulouse, mais il y a aussi à la périphérie des salles, même à Blagnac, je crois qu'ils se battent aussi à Colomiers, donc il y a sans doute des possibilités. Et tu m'as parlé de la productrice, donc c'est quand même une prise de risque aussi pour la production.
Oui, alors il faut savoir qu'au niveau du...
Ou moins limitée, mais...
C'est une prise de risque dans la mesure où c'est surtout du temps consacré plus que des fonds réellement, puisque le cinéma, d'accord, le court-métrage est quand même en France subventionné, repose sur des subventions pour la plupart publiques, c'est les télévisions, c'est les régions, le Centre national de cinématographie, puis les télévisions quand il y en a. Et donc il y a pas de vraiment, eux ils investissent pas en tant que tel des fonds, mais il y a une prise de risque parce qu'il y a un temps consacré, il y a un partage du travail aussi, puisque moi j'écris seul, mais elle a lu les 20 versions du scénario en me faisant à chaque fois des retours sur 12 mois à peu près, donc c'est vraiment, c'est un travail, c'est pas qu'un apport de fonds financiers, c'est aussi un apport créatif, la production.
D'accord. Tu peux la citer
si... Oui, c'est Charlotte Vincent, chez Aurora Film, c'est une boîte qui est située à Paris.
Voilà. D'accord. Donc nous la saluons, parce que c'est bien, je sais pas si elle produit aussi des longs métrages.
Oui, tout à fait. Elle produit du court métrage, du long métrage, de la fiction, du documentaire, c'est très vaste.
D'accord. Et comment s'est faite la rencontre ?
Alors, c'est une rencontre qui s'est faite par le film que j'avais fait. Donc, deux films avant, si on remonte un petit peu dans le temps. Donc, un film qui s'appelait Un avenir à Dieu, que j'avais écrit quand j'étais encore étudiant à l'ESSAV et qui avait été sélectionné donc au GREC, le groupe de recherche et d'essai cinématographique, qui est une petite structure, une association qui dépend du CNC, justement, et qui a pour vocation de financer des films qui sont un peu... différents, hors des circuits, on pourrait dire habituels, qui est, en tout cas c'est un peu leur politique. Et donc un peu étonnamment, mon film a été sélectionné parce que ça correspondait pas trop à ce qu'ils faisaient d'habitude. Et en fait ce GREC, dans leur comité de lecture, ce sont des producteurs et des productrices du cinéma qui font ça bénévolement, et elle faisait partie de la commission qui avait lu mon scénario, et donc elle a vu le film fini bien plus tard, et à ce moment là elle m'a contacté et on s'est rencontré pour faire le film d'après. Voilà, quitter le film d'avant.
D'accord, donc une belle rencontre.
Tout à fait.
Et qui te permet de mettre encore plus le pied à l'étrier, comme on dit. Et avec une foi que... Est-ce que tu, malgré tout le temps que tu passes là, au niveau de la finition du film, montage, sonorisation et après promotion, est-ce que tu as des idées qui te viennent aussi pour un autre tournage ? Est-ce que tu as commencé à griffonner sur... je ne sais pas si tu griffonnes, moi je griffonne beaucoup sur les papiers, mais moi je suis de l'ancienne génération, mais peut-être que toi c'est sur l'écran.
Non, les premières versions sont toujours manuscrites, enfin, je suis un griffonneur aussi de papier. Donc j'ai commencé à écrire un autre film il y a à peu près un an, et puisqu'il faut toujours avoir un petit coup d'avance, hein, parce que sinon au bout d'un moment on est dans un creux. Et je travaille par à-coup un petit peu, parce que là c'est vrai qu'avec une fois que le film s'est lancé, une fois qu'on a su qu'il y avait les fonds de la région et qu'il y avait aussi le CNC, il a fallu se mettre pleinement dans le film, donc j'ai un peu laissé de côté l'écriture de ce film-là. Et là je suis en train de la reprendre, puisque le rythme devient un peu moins soutenu par rapport au montage. Mais c'est encore vraiment qu'à l'état de végétatif, vraiment très très embryonnaire. Et donc j'écris effectivement les premières versions au fil de la main, avec le stylo et papier, avant de passer sur un tableau blanc, un tableau d'école que j'ai chez moi, et qui me permet de remanier les structures un petit peu, d'avoir une espèce de vision un peu globale du film, avant, là, pour la version suivante, de passer sur l'ordinateur pour la mise en forme. Parce qu'un scénario, c'est quand même assez codifié dans l'écriture, et donc c'est plus facile de faire ça à l'ordinateur. Et après, là commence le travail des 20 versions.
Voilà. Et comment te viennent les premières idées d'un film, d'un scénario ? Il y a un déclic, rencontres.
C'est toujours un peu un mystère. Là, pour Notre-Dame de la ZAD, j'ai réfléchi a posteriori à ce que ça pouvait être, parce que je me rappelle très bien le jour où l'idée m'est venue. Je venais de lire un article dans une revue qui s'appelle Jeff Clack, qui est une revue un peu sur le modèle de la revue 21, mais qui est beaucoup plus alternative, on va dire, dans les prises de position. Et c'est une revue de critique sociale et littéraire, et qui a pour principe, à travers ses numéros, de baser sa thématique de chaque numéro sur la comptine, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course. Donc chaque tome de la revue est consacré à marabout, donc le premier tome, là en l'occurrence c'était le premier tome, marabout, donc, qui est donc consacré à tout ce qui est magique, en gros. Et il y avait une interview très intéressante d'une anthropologue qui s'appelle Elisabeth Clavry, qui avait étudié des apparitions mariales, donc de la Vierge Marie à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine en 1980. Donc un sujet vraiment très... très intéressant, puisqu'il y avait tout un rapport entre, c'était juste après la mort de Tito, donc il y avait tout un rapport entre la police politique qui cherchait à empêcher les apparitions, et puis les prêtres qui s'engageaient là-dedans, enfin, et puis dans une zone un peu compliquée entre croates, bosniaques et minorités religieuses de différents côtés. Et donc il y avait tout un article là-dessus, un entretien très intéressant. Et donc l'idée m'a titillé, de ces apparitions de la Vierge Marie, d'autant qu'auparavant, si je remonte un petit peu dans le temps, j'avais donc fait un film de commande à Garaison, qui est aussi un lieu où la Vierge Marie serait apparue en 1515. Et donc j'avais été quand même imprégné par ça. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant, où pourrait apparaître la Vierge Marie pour que ça soit symptomatique de quelque chose par rapport à la société. Et un peu étrangement m'est venue l'idée de la ZAD, donc de rassembler comme ça ces deux univers très très différents que sont la ZAD et les apparitions mariales. Et progressivement, les deux se sont mélangés. Et l'idée, c'était donc de confronter à partir de ça, en fait, de manière un peu théorique au départ, deux engagements, l'engagement religieux et l'engagement militant, et de voir comment les deux pouvaient se répondre. Et là, donc, j'ai commencé à faire un travail de recherche un peu plus approfondi. J'ai acheté le livre d'Elisabeth Clavry, donc tout le dossier d'anthropologie sur les apparitions. J'ai commencé à me renseigner sur des philosophes, de manière un peu folle, des philosophes qui avaient étudié de manière politique les évangiles. Donc il y a un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, qui est un philosophe bordelais, qui a développé toute une thèse comme ça d'analyse politique de l'évangile, qui s'appelle l'idéologie marxiste chrétienne, qui donc est une lecture des évangiles de manière orientée politique, qui se termine même par un dernier chapitre qui mélange anarchie et évangile. Bon, c'est la preuve que on peut faire dire beaucoup de choses au texte sacré. Et donc j'ai réutilisé cette idée dans le film pour mélanger comme ça des choses qui a priori ne se mélangent pas, mais qui du coup en comédie font un peu des étincelles, et c'est ça qui est intéressant.
D'accord. Donc, tout un cheminement, toute une réflexion, puisque voilà, il y a peut-être le départ qui vient comme ça, tac, une idée, et il faut la faire jaillir sur le papier, mais après, ça se construit au fur et à mesure.
Exactement, oui, tout à fait. Oui, c'est un travail de construction. Il n'y a pas des recettes, hein, ça n'existe pas, mais il y a quand même un schéma qu'on peut un peu actantiel, qu'on retrouve dans la plupart des films, et qui, moi, m'intéresse de développer, parce que les films sont tellement barrés un petit peu, parce que ça part vraiment avec l'humour, dans l'absurdité, tout ça, donc je me rattache à une structure assez classique, finalement, de scénario, avec un élément perturbateur, des péripéties, des choses comme ça, mais qui, du coup, sont catalysées par l'humour, et un peu pulvérisées par ce qui se passe dans le film. Puisque c'est aussi un film, c'est une comédie, mais c'est aussi un film avec pas mal d'action, des séquences assez de courtes poursuites et des choses comme ça. Donc c'est très, ça repose sur des choses très classiques au final, malgré le dispositif, enfin, l'idée de départ qu'il est beaucoup moins.
D'accord. Donc je rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie, en compagnie de Xavier Delagne, réalisateur. Allez, je vous propose de marquer une autre pause en chanson. C'est avec un ami qui s'appelle Simon Chouf que nous avions reçu en direct et en live dans l'émission.
À demain. Je tracerai ma route dans des déserts de sable. Dans l'infini, ni poussière, je m'abandonnerai à toi. Sur l'infini, ni crinière, je m'accrocherai à toi. Un instant, court instant, un moment, long moment. Tu es le temps qui efface, le remonter à la surface, retrouver ton odeur qui est partout, mais ailleurs. Je cours après le goût des premiers rendez-vous, je m'accroche, à quoi bon? Et j'attends sans rien faire qu'essuyer mes paupières. Que trouver le temps long. Dégager l'horizon des barreaux de prison. Des fils barbelés de nos rêves fanés. Je glisse sur les nuages au-dessus des orages et je chante aux oiseaux mes petites rengaines sur de tristes fredaines. Ils s'enfuiront bientôt demain. Je tracerai ma route dans des déserts de sable. Dans l'infini, ni poussière, je m'abandonnerai à toi. Sur l'infini, ni crinière, je m'accrocherai à toi. Un instant, court instant, un moment, long moment. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission. Et si demain... Et si demain, le monde tournait un peu plus rond, donc il mettait quelques arrondis, plutôt que d'envoyer des scuds et compagnie, ça irait peut-être mieux. Et si demain, la culture prenait le pas sur... l'agriculture intensive, par exemple, ce serait bien aussi. Hein. Donc, nous sommes dans le studio avec Xavier Delagne, réalisateur, entre autres, de Notre-Dame de l'Azade, qui est en montage aujourd'hui et demain en diffusion. Et nous le défendrons, bien sûr. Et il reviendra, si nous existons toujours, j'espère. Hein. Esprit Occitanie, en plus, l'esprit est là, donc il va rester. Et si vous voulez écouter après les podcasts, parce que vous pourrez écouter les podcasts des différentes émissions, c'est sur www.espritoccitanie.fr. Voilà, alors Xavier, donc plein de... Là, c'est en mouvement, en création. Mais tu es toujours ancré à Toulouse, mais tu es obligé de faire des passages par Paris, puisque malgré tout, encore aujourd'hui, certes, il y a des choses qui se font en région. Peut-être que la région Occitanie va prendre de plus en plus d'ampleur au niveau cinématographique. Nous avons, en tous les cas, au niveau de l'animation, quand même des équipes qui se tiennent, mais il y a toujours un passage obligé pour l'instant par Paris.
Il n'est pas obligé, mais c'est vrai que comme la société de production avec qui je travaille est basée à Paris, c'est plus simple pour eux que ce soit moi qui fasse les allers-retours plutôt que de faire descendre, de faire monter des techniciens pour travailler, parce que la plupart des infrastructures, surtout, c'est surtout ça, sont à Paris ou dans la banlieue parisienne, notamment pour tout ce qui concerne le montage son, le bruitage, enfin le mixage, surtout le bruitage, tout ça, ça se passe beaucoup à Paris. Mais je sais qu'il y a des initiatives locales qui sont en train de voir le jour, donc j'espère que peut-être ça se développera plus dans la région. Mais c'est vrai que moi, je fais le choix de rester ancré à Toulouse, parce que c'est une ville que j'aime bien, et qu'on y est quand même beaucoup mieux qu'à Paris.
D'accord. Mais reste-y à Toulouse, nous te gardons. Et est-ce que tu as le temps d'avoir ce qu'on appelle des violons dingres, d'autres passions que le cinéma, où ça te prend tout ton temps entre l'écriture, le tournage, le montage?
Et c'est assez chronophage, je regarde des films aussi, mais je lis. Mais après, j'ai pas d'autres. Je ne suis pas un grand sportif, donc je n'ai pas d'autres vocations.
Non. Et un jour, ça t'a pas traversé l'idée? Tu as peut-être aussi, avant d'être derrière la caméra, est-ce que tu as été devant déjà? Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as eu envie de le faire ou pas?
Alors, je l'ai fait quand j'étais étudiant à l'ESSAV, parce que c'est un peu un passage obligé. Et je suis très, très mauvais comédien, donc j'ai rapidement arrêté.
Mais ça s'apprend aussi, la comédie. C'est... Mais ça, c'est pas du jour. Alors, il y a peut-être des gens qui ont ça de manière innée, mais c'est beaucoup de travail quand même.
C'est vrai, ça s'apprend et ça se travaille, mais c'est un travail très compliqué. Et moi, je n'ai pas le courage de me regarder après à l'image. Je me trouve de suite très, très mauvais. Donc, je n'ai pas encore le recul pour me juger. Je sais qu'il y a des comédiens qui sont assez étonnants avec ça, qui arrivent vraiment à prendre de la distance par rapport à eux-mêmes. Mais moi, je n'ai pas réussi. Et puis, je n'ai pas trop essayé.
Et est-ce que tu... plus tard, quand tu as commencé à être de plus en plus connu, est-ce que tu aurais des comédiennes et des comédiens fétiches que tu aurais envie d'engager dans des prochains films?
Ah ben, toujours, on rêve. Mais après, ça dépend vraiment des rôles qu'on écrit. Il y a des rôles qui appellent vraiment des comédiens, mais j'ai déjà... ça m'est sur le film d'avant-avant. J'avais vraiment très envie de tourner avec Philippe Duclos, qui est un acteur de théâtre et aussi de séries télé, et aussi de cinéma d'ailleurs, puisqu'on le voit au cinéma, mais où il a plutôt des seconds rôles. Un acteur de théâtre notamment qu'on a vu dans Engrenage, où il joue le juge d'instruction. Et j'avais très envie de tourner avec lui, et on lui a envoyé le scénario, et il a accepté, et on a fait ce premier film ensemble. Et puis là, il était de nouveau dans le film suivant, parce que vraiment, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a une façon très particulière de porter les textes, et qui me touche beaucoup quand il joue. Donc j'avais vraiment très très envie de travailler avec lui, et voilà, ça s'est fait. Il suffit des fois de contacter les gens de manière très simple, et ils acceptent très amicalement de le faire, même si c'est dans des conditions parfois bien en dessous de ce qu'ils gagnent dans la télévision ou au cinéma.
Et comment s'est passée la rencontre avec Émilie Perrin? Tu l'avais déjà rencontrée?
Alors, je l'ai rencontrée par le biais de Paul Lacoste, qui est réalisateur et professeur, qui était mon professeur à l'école et avec qui j'ai gardé des liens de travail, mais aussi d'amitié. Et je cherchais une comédienne dans la région, parce que j'avais envie qu'elle soit de la région, pour interpréter ce rôle qui... Et il m'a conseillé, il avait passé un casting avec elle et il m'a montré ses essais. Et j'ai été très intéressé, donc je l'ai contacté et puis on a passé des essais. Et voilà, ça s'est fait de manière assez simple.
D'accord. Et vous n'avez pas offert un concert en même temps? Non, il n'y avait pas le temps.
Non, il n'y avait pas le temps, malheureusement. C'est très rapide.
Donc, elle a passé tout le temps du tournage?
Non, elle était là qu'une partie. Je crois qu'elle était là 3 ou 4 jours sur les 13.
Donc, le tournage qui a duré donc 2 semaines.
À peu près, oui, tout à fait. 2 semaines intenses, de jour et de nuit. Voilà.
Et là, quels sont les festivals auxquels tu aurais envie de participer? Bon, chez nous, il y a un festival aussi du court-métrage. Il sans doute t'accueillera en tous les cas où ton film sera, dans le cadre duquel ton film sera diffusé, je suppose.
Je l'espère. Après, c'est vrai qu'on est sur une durée un peu particulière qui est le moyen métrage, qui n'a pas autant de fenêtres de diffusion que le court métrage, puisque souvent les festivals limitent à 20 ou 30 minutes leur sélection. Donc il y a des festivals un peu plus spécialisés comme Brive, qui est vraiment spécialisé dans cette case-là du moyen métrage, donc qui diffuse des films entre 30 minutes et 1 heure. Après, il y a moins de festivals sur la région. Il y a Jindou, bien sûr, qui propose ce genre de festival. Sur le côté Languedoc, il y a notamment, je crois qu'il y a un festival à Montpellier aussi qui s'appelle Les Rencontres de Méditerranée ou quelque chose comme ça, qui accepte ce genre de format. Et après, bien sûr, on espère des festivals prestigieux. Bon, la Cannes, ça va être compliqué puisque ça arrive très vite. Mais aussi Pantin, qui est un festival dans la banlieue parisienne très intéressant. Voilà, il y a plein de... Mais ça, c'est plus le boulot de la production, pour le coup, que le mien.
D'accord. Merci, Xavier Delagne, donc réalisateur de Notre-Dame de la ZAD, en un seul mot.
En deux mots.
En deux mots, la ZAD. Aussi, d'accord. Ouais, alors, c'est moi qui... la ZAD, donc, c'est pas celle de Notre-Dame-des-Landes, mais bon... C'est en tous les cas sur un côté tourné un petit peu sous la forme d'une comédie ou un petit peu beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission Et si demain.
Merci de m'avoir invité.
Et au plaisir de t'y retrouver, soit dans celle-là, soit dans Traversée, puisque je vous donne rendez-vous dès vendredi matin entre 10h et midi avec en direct Lise Martin, Marianne Colombier qui vont chanter, mais aussi Véronique Labre, Patrick Boyer et Christian Moreto qui diront de la poésie. Et merci Jean-Louis Arzac-Fraisse pour la réalisation ce soir. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Et puis, nous aurons aussi un entretien que nous diffuserons avec Irène Finkel, d'une réalisatrice qui a tourné concernant d'ailleurs du théâtre réalisé par des anciens prisonniers. Bye bye, à très vite sur Esprit Occitanie. Thank you.